Radio Spirale. Radio Spirale vous présente la table ronde du 30 mai 2015, tenue à la librairie La Flèche Rouge, à l'occasion du Festival de la Poésie de Montréal. Autour de la question du choix de créer sous la forme d'un zine ou d'un livre, l'animatrice et libraire Pascale André s'entretient avec les auteurs Roxane Desjardins et Daphné Cheyenne.
Donc, bonsoir. Je me présente. Je m'appelle Pascale André. Je suis la libraire ici à La Flèche Rouge. Puis, ça me fait très plaisir de vous accueillir ce soir pour cette table ronde sur l'ouvrage Le Livre Poétique qui va parler du recueil plus classique, puis d'usine aussi, qui est une forme plus artisanale, faite souvent à la main, de façon un peu clandestine, obscure, avec beaucoup d'amour. Pour la discussion de ce soir, j'ai deux invités avec moi, Roxane Desjardins, et non Isabelle, et Daphné Baudouin-Pilon, qui a un nom de plume, Daphné Cheyenne. Donc, voilà. Nos deux invités ici ce soir sont des auteurs qui ont publié et des recueils et des zines, je crois, de ce qu'on a dit.
Moi, j'ai un recueil sous contrat.
Oui, c'est ça. D'accord. Et on est ici, dans le fond, pour partager avec elles, pour savoir qu'est-ce qui les a poussées. Ben un peu, premièrement peut-être à commencer à écrire, comment ça vous est venu? Est-ce que tu voudrais commencer à nous parler un peu de ton souffle d'inspiration?
C'est vraiment terrible.
Ou alors parle-nous juste un petit peu de toi, qu'on a l'impression de te connaître un petit peu plus intimement.
Ah, je pense que c'est le moment que Daphné et moi nous sommes rencontrés en secondaire 1 à l'école secondaire de la Magdeleine. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on écrive la poésie.
Non, puis je me rappelle d'un de nos points en commun, c'est qu'on avait les deux été des concurrentes à la dictée PGL.
Ah, mon Dieu, la dictée PGL!
Ouais, c'est que je pense que mon désir d'écrire provient de mon échec à la dictée PGL. Ouais.
Non, ça a été un profond traumatisme qui t'a bouleversé.
Non, c'est toujours difficile à dire, là. Franchement, à un moment donné, au secondaire, il y a quelqu'un qui m'a dit de lire Gaston Miron, puis de fil en aiguille. Oui. Je sais, c'est un peu difficile à dire, mais... c'est ça, j'ai écrit des poèmes longtemps en ne sachant pas que j'allais faire ça pour de vrai. Là. Mm-hmm. C'était un exercice très amusant. J'étais d'ailleurs avec un autre de nos collègues au secondaire, mon ami Alexis. On a beaucoup collaboré. On s'envoyait nos poèmes par courriel, puis on avait des codes de couleurs pour se donner des commentaires.
Oui, ça me rappelle des souvenirs. Puis toi, je m'excuse, je ne voulais pas te couper.
Ben non.
Puis toi, Daphné, comment ça a démarré? Est-ce que c'était un peu plus évident, moins évident, nébuleux?
Je sais pas comment dire, mais la poésie, ça a comme toujours été présent chez moi. Mm-hmm. J'ai des calepins, j'écrivais comme à 8-9 ans, là, des poèmes qui riment sur les bébés puis les choux.
Les violettes sont bleues.
Même si, en fait, j'ai commencé à écrire de la poésie avant d'en lire. Ça, c'est peut-être un changement dans ma vie, là. Oui, le moment où j'ai trouvé des livres qui m'ont fait triper. Mm-hmm. Ouais.
Roxane nous parlait de Gaston Miron. Toi, est-ce que tu as un auteur en particulier à ce moment-là de ta vie qui était un peu comme...
Ton exposé oral sur Jean Arrache en secondaire.
Ah ouais, Jean Arrache, ouais. En fait, moi, c'est plutôt le contraire. En fait, j'ai souvent eu un problème avec la poésie dans le sens où j'avais l'impression que j'aimais ça, mais je comprenais pas qu'est-ce que j'aimais dans la poésie, puis il n'y avait pas d'auteur que je pouvais citer, puis j'avais plus des auteurs que j'aimais pas que des auteurs que j'aimais. Une des choses qui a changé, c'est quand j'ai été mise en contact avec des traditions plus américaines, anglophones, je me suis plus reconnue là-dedans. Mais encore là, aujourd'hui, j'ai de la misère à dire pourquoi.
Oui, je comprends.
Je suis libraire dans le milieu anglophone. J'ai l'impression que j'ai beaucoup d'inspiration plutôt de la tradition américaine, mais je pourrais pas dire pourquoi.
Ça vient de chercher plus viscéralement.
Puis ça m'a pris du temps avant d'être en contact avec ça, parce que c'est pas nécessairement la littérature qu'on nous fait lire à l'école.
Non, certainement pas, surtout l'école francophone.
Oui, c'est ça.
Dirais-tu que, quand tu parles de la culture américaine au niveau de la poésie, est-ce que la Beat Generation t'a...
Pas du tout.
Pas du tout,
ouais, c'est ça.
Parce que c'est souvent ce qu'on entend.
Le premier poète qui m'a accroché, c'était Leonard Cohen. Ah, il y a aussi les paroles de Tom Waits. J'ai vraiment accroché là-dessus. Sinon, en poésie, je suis plutôt dans le contemporain ou l'extrême contemporain.
D'accord. Puis, pour ce qui est de toi, Ton premier recueil, tu l'as publié quand?
Mon premier recueil est paru à l'automne dernier. Mm-hmm. C'est encore tout récent. J'avais fait des fanzines l'année d'avant.
En D'accord.
Fait, on se parlait tantôt d'Aphné et moi d'assumer nos fanzines. Puis je disais, ouais, j'ai plus vraiment envie d'en faire des lectures publiques, des fanzines, mm-hmm. parce que je les ai préparées avec mon amie Coco Simone Finken, qui a fait aussi la couverture de mon livre aux Herbes Rouges. Coco, elle faisait le programme de, voyons, technique du livre,
c'est ça? Mais je crois bien que c'est, en tout cas, si c'est pas ça, c'est quelque chose
de très approchant. De la reliure de l'impression, oui, oui. Puis l'illustration à Concordia. Puis en fait, à l'origine, nos fanzines, ce sont ses travaux d'école.
Ah,
il fallait qu'elle fasse des livres, puis elle, ça l'intéressait pas vraiment de faire des livres vides ou des livres avec seulement ses illustrations. Elle voulait de la poésie, puis on avait déjà comme des univers assez connexes. Donc on a construit ces deux fanzines-là, puis on les a sortis à l'automne 2013.
Donc vous avez tu as commencé par le zine, puis ensuite tu t'es dirigé vers le recueil. Mais le zine, ben, c'était plutôt non officiel, en fait.
Ben c'est ça. En fait, les poèmes qui sont dans le petit recueil qu'on a fait ensemble, c'est deux projets un peu différents, mais il y en a un qui est vraiment trois suites de poèmes, c'est Constance Succombe. Puis les poèmes qui sont dans Constance Succombe, ça aurait pu se passer autrement, puis qui se retrouvent dans mon livre.
Okay.
L'écriture est plutôt contemporaine là, des textes de ciseaux, mais ça a donné que dans le fouillis de poèmes que j'avais,
dans parce le
que
flow,
c'est ça, ça se construit, je pense qu'un premier livre, ça se construit souvent un peu sans qu'on sache où ça va finir par aboutir. Là. On écrit beaucoup puis on élague ensuite.
Ça peut être comme une toile.
Ouais, c'est ça. J'avais beaucoup, beaucoup de poèmes, puis quand Simone m'a demandé de donner des poèmes, j'ai trouvé, je veux dire, elle a choisi en fait, parmi, j'ai présenté vraiment beaucoup de textes, dont plein qui se sont ramassés dans le recueil, puis elle a choisi ses préférés pour qu'on fasse un recueil ensemble. Fait que pour moi, c'est comme, c'est deux étapes du même projet en fait.
Donc, tu sens pas qu'il y a une profonde cassure, qu'il y a une brisure, c'est plutôt comme une progression nivelée.
Oui, mais c'est pas, c'est juste pas du tout la même expérience.
Non, c'est dans... tout à fait, je comprends.
C'est ça, je continue d'en faire du fanzine, c'était pas comme... avant de pouvoir publier, je vais faire un fanzine, puis maintenant que j'ai un éditeur, je ne fais plus de fanzine. Oui. Non, parce que c'est pas du tout le même rapport. Mon éditeur, il veut pas là, faire Cannibal Maison. Ça l'intéresse pas, puis... on pourra en parler longtemps, on va peut-être découper ça. En plus de questions, mais...
Non, c'est quand même...
Non, mais c'est...
D'accord.
Ça relève quand même d'un travail, du même travail.
D'un travail quand même assez long, tout un processus dans le fond de premièrement la gestation, l'écriture des textes, puis ensuite l'élagage, puis toujours plus pointu là, vers le résultat. D'accord. Puis toi, Daphné, comment ta création de zine, comment ça s'est présenté à toi? Pourquoi le zine?
Ben en fait, moi j'ai fait mon bac en littérature à McGill, puis j'avais jamais entrepris, comme j'écrivais beaucoup, notamment avec les nounes en dentelle, dont Roxane a fait partie. Mais j'avais jamais pensé à imprimer ces textes-là, les faire circuler d'une autre manière que sur Internet.
Est-ce que c'était parce que tu leur accordais une importance moindre ou c'était seulement parce que l'idée t'était pas venue comme ça?
Je pense que c'est juste parce que je me sentais pas mûre au point créatif, puis j'avais comme d'autres choses à vivre, puis c'était peut-être pas des produits finis en fait. Puis j'ai vécu un an en Asie. Puis quand je suis revenue d'Asie, c'est comme si j'avais un peu perdu mes repères. Je connaissais personne dans le milieu littéraire, vraiment. J'étais plus à l'école. Là, je suis retournée aux études à la maîtrise, mais j'étais pas capable de trouver une place au sein de la scène littéraire. Puis j'avais fait beaucoup de lectures à Taïwan en anglais. Puis là, je voulais faire des lectures, c'est ça que je me rappelle de ça. Puis quand je suis arrivée, j'ai demandé à tout le monde, puis je semblais pas trouver de place pour inscrire ma création ou ma voix. Je voulais me trouver une scène. Puis la première qui s'est présentée à moi, c'est la scène anglophone de Montréal, étrangement. donc,
c'est peut-être pas étrange, peut-être que c'est quand même...
C'était plus ouvert, je pense, tandis qu'en français, les gens sont... c'est plus dur de percer en français.
C'est malheureusement ce que j'ai entendu également.
Ouais.
La scène anglophone, pour ce qui est de la littérature, du moins actuelle, semble plus dynamique, plus ouverte aux jeunes auteurs.
Donc, j'avais une production plutôt anglophone, étrangement, quand je suis revenue à Montréal, mais j'avais toujours une présence web, puis avec ça, je me suis fait connaître. Puis là, j'ai décidé de réunir des textes, puis de faire Sniff avec mon beau-frère, qui a fait la mise en page, puis l'image de la couverture, c'est mon oncle. Puis ça a été vraiment une bonne décision parce que c'est ça qui m'a permis d'avoir concrètement un document à présenter à la scène francophone. Puis je me suis mis à exister à travers SNIF, d'après moi.
C'est comme si c'était une preuve tangible, finalement, un premier pas en avant au niveau de la scène francophone, là, ton retour.
Ben en fait, c'est parce que ça fait longtemps que j'écris, mais c'est avec SNIF qu'on m'a, entre parenthèses, vraiment entre parenthèses, découvert, parce que j'ai quand même un lectorat développé sur le numérique.
Est-ce que, quand tu parles de ça, est-ce que c'est un blog?
Comment tu gères ton lectorat? J'ai un blog, mais là, c'est de moins en moins actif, mais c'est surtout une page Facebook avec des gens qui me suivent. Puis à travers ça, c'est ça, les gens me lisent. Donc, j'avais un lectorat qui était plutôt numérique. Puis avec SNIF, ben je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, Mathieu Arsenault est tombé là-dessus, puis j'ai gagné le prix de l'Académie littéraire cette année. Puis tout d'un coup, c'est comme si Daphné Cheyenne, elle existait, mais pourtant, ça fait des années que j'écris. Puis ce zine-là, il n'est pas jeune non plus. Ça fait quand même un an et demi qu'il existe. Je me rappelle que Roxane me l'avait acheté dans un lancement, ça fait longtemps. Ouais.
Donc, c'est comme si avec SNIF, tu avais ouvert une petite porte, en fait, qui t'a propulsé dans un autre univers.
Oui et non, parce que dans le fond, c'est ça, j'existe. Puis j'existe toujours en dehors de SNIF, mais c'est comme si j'avais eu, comment on dit, si j'étais un rappeur anglophone, je dirais que c'est mon credential.
OK.
Ouais.
D'accord. Puis pour ce qui est d'usine, là on va parler d'usine, on va l'approfondir. Dans la salle ici, qui connaissait l'usine avant ce soir? Est-ce que tout le monde connaissait l'usine avant ce soir? Oui. Et qui ne connaissait pas l'usine avant ce soir? Pour ceux qui connaissent le zine, c'est à vous que je vais m'adresser. Qu'est-ce que ça vous évoque? Soyez pas gênés. Ah, mais non, mais le zine en général. Le zine, qu'est-ce que ça t'évoque, le zine?
Ça fait penser à un magazine.
Puis pour ceux...
Je connais vraiment rien pour ça.
D'accord. On va être indulgent avec toi.
Je découvre.
Puis pour ceux qui connaissent ça, qu'est-ce que ça vous évoque?
Do it yourself.
Oui, le DIY.
Ben moi, ça m'évoque quelque chose de complètement personnel.
Personne d'autre?
On n'a pas besoin d'une maison d'édition.
Oui, on peut s'auto-éditer, c'est vrai.
On peut au niveau de l'essai et de l'expérience.
Oui, on peut expérimenter. Moi, je vais y aller avec mon petit mot. Moi, ce que ça m'évoque vraiment, le zine, à la base, hors de l'industrie, c'est vraiment quelque chose qui est accessible au plus grand nombre parce que techniquement, n'importe qui peut faire un zine. N'importe qui peut arriver avec une idée, un concept, le faire. Je veux dire, les façons de faire le zine sont tellement, tellement diverses. On a un zine comme le zine de Daphné qui a l'air, comment je pourrais dire, pas plus léché, mais qui a l'air d'avoir été fait avec un apport plus important de l'imprimerie industrielle, admettons. Ça, c'est sérigraphie ici.
Ouais.
On a un peu de sérigraphie aussi. La sérigraphie, on la retrouve vraiment, vraiment souvent dans le zine. On a ici un zine d'Audriane, qui est la technique ici employée est super intéressante. Ça a été fait au risographe dans les ateliers de La Passe dans l'Ouest, qui est aussi une vraie atelier. Puis ça donne un objet qui a vraiment l'air d'avoir été écrit à la main, à l'encre. Ça fait quelque chose de très personnel, comme un petit document qu'on se passerait un peu comme ça sous la table, sous le manteau. Ça devient un peu un petit trésor, quoi, un truc un peu clandestin. On a ça ici, qui a été fait par Geoffroy Deloré, avec un superbe papier embossé. On peut les faire circuler, en fait. Puis ça aussi, ça a été fait de façon plus classique, avec un plus grand tirage. Puis ça, c'est sans parler de toutes les autres versions qui peuvent être possibles. Ici, j'ai pris les zines poétiques qui me parlaient le plus de ceux que j'avais en boutique. Mais l'horizon est très vaste. Là, on peut parler de papier artisanal fait à la main, on peut parler de sérigraphie, d'impression manuelle, carrément de dactylo, puis de découpage, de collage. Puis ça peut être de la banale photocopie, oui, de couture sur papier, c'est vrai. Puis ça peut être à la base de banale photocopie qu'on plie, puis qu'on vient découper d'une façon particulière qui fait en sorte qu'en l'ouvrant, ben, ça fait un livre. Mais à la base, c'est qu'une feuille de papier, ça va m'en plier. Puis, si on se fie aux zines des années 80-90, on voyait de tout, des trucs très psychédéliques, des prises de parole. Ça peut être très poétique, très lyrique, ça peut être aussi très engagé, ou à la limite carrément abstrait, ou juste très artistique, un peu inaccessible, que d'illustrations, illustrations et textes. Ça peut être un poème mis en papier. Bref, le zine, ça peut être pratiquement n'importe quoi. Mais là, c'est pas ici un n'importe quoi négatif ou péjoratif. Ça peut être n'importe quoi au sens créatif. Ça peut devenir n'importe quoi.
Si tu définis le zine, c'est très très large en fait. Ça peut être une feuille de papier. Par exemple, moi je mets mes poèmes anonymement, je le colle dans le métro sur les publicités.
Ça, ça irait plutôt au sens de l'affichage. Ah, oui, un zine, techniquement, il faut que ça ressemble un tout petit peu à un livre.
D'accord,
un tout petit peu. Oui.
Mais pas trop.
Mais pas trop.
Il y en a des fanzines avec. Il y a des éditeurs. Mm-hmm. Par exemple, à exposer l'affaire du fanzine, oui. Il y a des éditeurs qui sont présents, mais il y a Dryden Quarterly, mais mm-hmm. mettons Rodrigol, qui est une maison d'édition un peu hybride.
Oui,
c'est,
oui.
Ils prennent le soin de faire une maquette nouvelle pour chaque livre. Mm-hmm. Il y a le soin aussi, souvent, ils font sérigraphier leur couverture. C'est un peu plus confidentiel
oui,
comme tirage, mais c'est un public aussi très différent. C'est des livres qui se passent vraiment plus par le bouche à oreille que
oui, tout à fait.
Par la...
D'ailleurs, ça me fait penser, je vais me lever une seconde. Oups. J'ai un livre. De Rodrigol ici, justement, comme Roxane disait. Puis techniquement, quand on voit ce livre, il a l'air d'un recueil de poésie. Quand on le feuillette, on se rend compte que okay, ça peut être expérimental, finalement, c'est pas de la poésie, c'est beaucoup de texte. Mais eux, ils l'appellent leur zine. Pourquoi? Parce qu'il est fait de façon plus artisanale. Le tirage était moins grand, la couverture est sérigraphiée. À l'intérieur, on retrouve beaucoup d'éléments de collage super inspirés du dadaïsme qui rappellent vraiment le zine artisanal. Qui n'est pas nécessairement un livre relié. Donc, ça. Puis aussi, l'exposé est devenu un événement. Avec le temps, cet événement-là devient très, très gros, grossit de plus en plus à chaque année. Puis là, les choses qui nous sont présentées là-bas deviennent de plus en plus variées. On a aussi maintenant carrément du livre, mais toujours du livre un peu plus clandestin, un peu plus indépendant, un peu plus inconnu. Un peu moins accessible, mettons, dans les grands noms, dans les grandes chaînes.
Mais c'est un livre-objet aussi,
mm-hmm.
c'est différent de des livres qu'on...
C'est pas la même approche, là.
Mm-hmm.
Quand on travaille avec un éditeur, on travaille avec sa maquette de livre,
oui.
On travaille avec ses standards, un livre, ça a un minimum 48 pages, ne serait-ce que pour ça, ça change beaucoup de choses dans l'approche, puis... Mais il faut pas négliger. Mais je pense que ce qui définit le mieux le fanzine, c'est justement le fait que ça n'a pas de forme.
C'est son aspect moins rigide.
Que c'est, ben ce qui définit le fanzine, c'est que c'est les personnes qui le font
mm-hmm.
eux-mêmes, puis que c'est
mm-hmm.
un livre dans la mesure où on le présente comme tel. En fait, je suis en train de travailler avec un autre poète, Félix Durand, sur un
oui.
fanzine qui va être sous forme de rouleau.
Mm-hmm.
Ouais.
Oh, ça, c'est super intéressant. Oui, d'ailleurs, ben, c'est ça, les zines ne sont pas obligées d'être des petits livrets. Je veux dire, on dit faut que. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait que ça ressemble au livre, mais c'est vrai que ça peut aussi carrément devenir du livre-objet. Ça peut être une bouteille qui représente un faux cocktail Molotov bouché par un tampon, puis ça peut être ça. T'sais, ça peut être une canne de soupe avec des lettres en vrac à l'intérieur, puis
mm-hmm.
ça peut être le livre-objet dont on
d'ailleurs,
parle.
D'ailleurs, les productions ARE font des
mm-hmm.
fanzines à chaque festival dans ta tête.
Oui,
les revues
vrai.
Sont publiées en ligne, puis ensuite, Catherine Comilla-Rose, elle les fait imprimer. Puis c'est lui auquel j'ai participé. Il se vend dans une tasse
mmh.
avec un sachet de thé.
Ah, ça, c'est vraiment intéressant.
C'est celui de la journée de la femme, je pense. C'est,
oh,
c'est
oui.
Mère Bruno d'Acosta qui dirigeait. Puis, c'est le papier plié à l'intérieur de la tasse, puis ensuite, il y a vraiment une poche de thé. Je n'ai pas bu.
Mais j'ai failli, d'ailleurs, j'ai failli coller une vraie poche
oui,
de thé.
Oui, c'est ça, il y a une image.
Mais on
ça devenait trop.
Ouais, c'est
oui,
c'est
ça. Puis. J'avais une super question, super intéressante, et là, elle s'est fait un trou dans mon oreille et elle est partie.
Ben, il y a aussi, je veux dire, c'est le mouvement Do It Yourself,
mm-hmm.
c'est un peu plus punk, donc c'est aussi une manière de critiquer, ben, de s'inscrire, je sais pas, en porte-à-faux des canaux éditoriaux
mm-hmm.
traditionnels, si on n'est pas, si on offre, par exemple, une poésie qui se publie pas au Québec,
oui.
ben, c'est la manière aussi de l'introduire, là, je pense, oui. Moi, j'ai été charmée par des fanzines de Maud Veilleux que j'avais justement échangé comme avec mon zine.
Mm-hmm.
Puis c'était des trucs super ésotériques. Il y avait un peu de texte emprunté aussi qu'elle avait fait avec son copain, Guillaume Adjutor. Puis c'est pas le genre de truc que tu vas pouvoir publier, ou en tout cas, il n'y a pas de maison d'édition que je connais au Québec qui publierait ça.
Dans l'industrie, il n'y a pas de créneau pour ça, ouais. Pour ce genre de choses trop,
mais c'est tant mieux, trop funky. Mais oui. C'est une manière de faire exister ça.
Je pense que justement, que ce créneau-là soit absent dans les, pour ce qui est des grosses maisons d'édition, puis de la plupart des maisons d'édition en général, ça fait en sorte que justement le zine peut rayonner de plus belle de par la diversité des gens qui peuvent en faire, puis qui peuvent s'arroger le droit de le faire en fait, de le faire comme ils veulent, puis de la façon qu'ils veulent.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose de sans compromis. En même temps, il y a beaucoup de compromis à faire quand on fait du zine parce que ça coûte de l'argent.
Oui,
c'est quand même un aspect non négligeable. Ben, c'est le marché de la poésie en ce moment. Puis je tiens la table du Lézard amoureux parce que je travaille pour le Lézard amoureux.
C'est sur la place Gérald Godin.
Oui, sur la place Gérald Godin.
Pour
et
hier,
il y a des gens qui posent des questions toutes les sortes. Souvent, on s'est demandé si on a écrit tout ça, comme les 20 livres devant nous.
Oui,
mais
je
me suis fait demander hier, poser des questions sur comment ça marchait si on met des manuscrits. Une jeune fille qui me dit qu'elle connaît quelqu'un qui a écrit un livre et qui veut savoir comment ça marche. Puis j'ai répondu à ces questions. Puis à la fin de notre. Sa dernière question, c'était, puis juste pour savoir l'impression là et tout, combien ça coûte? Puis là, j'ai dit, mais c'est parce que tu payes pas. C'est ça le but, que tu payes pas. C'est, je veux dire, l'éditeur a toute une force symbolique, mais il y a aussi le fait qu'il prend en charge la responsabilité, c'est ça, de présenter le texte par opposition au fanzine ou, je sais pas, ton choix, mettons, de faire de la sérigraphie. C'est peut-être arrivé après que tu en aies fait des versions.
Ah non, ça, c'est ma première version.
C'est la version originale.
Ouais.
Mais tu sais, il faut que tu connaisses quelqu'un qui en fait de la sérigraphie ou que tu saches comment faire, que tu aies accès aux
presse. Donc, encore là, ça reste quand même de bouche à oreille puis de contact.
Oui, puis c'est aussi, malgré tout, un mini peu marchand.
Oui.
Je veux dire, il y a un aspect marchand dans ça parce que si tu n'as pas l'argent pour le faire et le donner, il faut que tu arrives à récupérer la part d'argent que tu as investi
dedans. Oui, tout à fait.
Moi, je pense que je perds de l'argent
là-dedans,
mais c'est un plaisir, je sais pas. C'est quand, ben en fait, surtout pour Sniff, parce que j'ai fait aussi une activité « Do it yourself », ton poème de peine d'amour, qui était un zine. Mais je trouve que c'est comme un cadeau idéal à donner à quelqu'un en peine d'amour. Puis pour vrai, j'ai eu des messages de lecteurs qui disaient que ça les avait aidés, puis tout ça, ils étaient reconnus. Fait que pour moi, c'est juste de distribuer quelque chose qui pourrait potentiellement rendre les gens heureux. je m'en fiche. Mais ouais, c'est pas un... Je veux dire, on fera jamais d'argent avec les zines.
Non, on fera jamais d'argent avec les zines, mais justement, mon expérience, c'est justement avec... un format un peu particulier, là, Cannibal Maison, je vais vous le montrer un peu, là. C'est un livre avec une découpe, une couture, le papier c'est du vellum.
Comment a été faite la reliure, excuse-moi?
Cousu à la main. Oui. Fait que, je pense que juste comme payer le carton, l'impression, puis le papier à l'intérieur, c'était quand même...
Juste le vellum coûte assez cher, déjà en partant.
C'est ça. Puis là, après ça, c'est une question à se poser, là, on fait cet objet-là. C'est sûr qu'on aurait rêvé de le donner, mais on n'avait pas les moyens de le donner. Puis après ça, est-ce qu'on fixait un prix? Là, c'est toute une question. J'ai vraiment jamais résolu cette question.
Justement.
On en a beaucoup discuté avec Coco Simone, avec qui je travaillais. Parce que dans le fond, le fanzine, ça flotte entre le projet très artisanal et très personnel et qui s'inscrit particulièrement dans rien. Donc, qui peut être comme une sorte de... carte de condoléances, limite, là. Quelque chose que tu peux, tu sais, c'est un petit objet à toi que tu peux donner, mais c'est aussi pas loin du livre d'artiste. Puis quand t'as un objet comme...
C'est une mini-œuvre d'art, finalement.
C'est ça, qui est un tirage limité, fait que là, qui est quand même une espèce d'aspect...
particulier. C'est comme plus spécial.
C'est unique.
C'est une rareté, en fait.
C'est ça, tu sais, ça, c'était cousu à la main. Donc, finalement, on a opté pour... on le vendait quand même cher. On le vendait cher, mais parce que ça dépendait de notre temps, mais parce que ça c'était tellement long que ça impliquait de prendre des journées de congé pour monter nos fanzines. On a fait 40, je pense qu'Anne Balmaison, ça a pris vraiment peut-être une semaine à faire au complet. Là, tu prends tout le temps d'aller chez l'imprimeur, t'es coupé de maison dans la couverture, on était un peu fou. Je vais vous le faire passer, en fait, c'est mon exemplaire, il n'y en a plus. Il se vendait 20$. Je me suis fait dire par beaucoup de gens que c'était trop cher, mais en même temps, c'était la solution qu'on a trouvée pour que ça soit possible pour nous de le faire
imprimer.
Chaque
page est sur vellum.
Oui,
ça. Je comprends tout à fait.
Je peux faire passer, si vous voulez voir.
Mais en tant qu'auteur et, disons-le, quand même artiste, parce que bon, l'écriture est un art, la fabrication de zine en est un aussi, votre rapport à l'argent, où est-ce que vous vous situez? Est-ce que ça vous crée un malaise? Est-ce que vous essayez de pas y penser? Comment, est-ce que ça occupe une bonne partie de vos réflexions? Comment vous vivez ça?
Moi, je vis ça très mal.
Oui.
En ce moment, tu sais, je me sens choyée parce que je suis à la maîtrise, j'ai accès à des prêts et bourses. Puis, donc, ce qui m'a permis, l'année passée, j'enseignais au secondaire. Là, ça m'a permis de travailler de prendre un emploi qui était moins payant, mais qui me faisait sentir très bien, où je m'épanouis, mais qui, avec lequel je pourrais pas vivre.
Donc, un emploi qui est non alimentaire.
Donc, j'arrête pas de penser au futur constamment, là. Moi, en tout cas. C'est ma vie, mais je me dis l'année prochaine ou dans un an et demi, quand j'aurai fini ma maîtrise, puis il va falloir que je rembourse mes prêts, puis j'aurai plus de bourse, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mm-hmm.
Donc, est-ce que tu dirais que l'aspect économique de la chose vient influer sur ta création, sur les projets que tu veux mener au niveau littéraire?
C'est clair, parce que tous les projets que j'ai faits, les performances que j'ai montées, c'est de moi que les ressources sont venues. Donc, par exemple, le film I Am a Girl, qui a été présenté à la Cinémathèque hier, puis qui était aussi projeté tout l'été au Goethe Institute, ben c'est moi qui ai booké ma journée, c'est moi qui ai payé les filles, qui ai payé n'importe quoi qu'on avait besoin. Je veux dire, j'ai pris du temps, de l'argent. C'est moi qui ai approché ma coloc, c'est elle qui a fait le montage pro bono. Je reçois pas d'argent en étant artiste, j'en dépense. Mm-hmm. C'est oui, la même chose pour une performance que j'avais montée l'année passée pour le festival à Sorel. Ben c'est le fun, les gens qui participent à la performance, mais s'ils pensent que je fais de l'argent avec ça, ils se trompent parce que souvent, le seul coût qui va être payé par les festivals, c'est le coût de l'essence.
Donc, oui, le déplacement.
Ça m'a coûté 50$ aller à Sorel, ben c'est ça qu'on me rembourse, c'est tout. Puis, je veux dire, toute la préparation pour la perfo, le matériel d'artiste que ça a pris, c'est mon temps puis mon argent. Que oui, c'est vraiment... Puis je pense que c'est dur d'écrire si on est préoccupé puis on pense juste à,
oui, tout à, fait.
À l'argent.
Non, ça c'est vraiment... Ça érige un beau mur dans le flow créatif. Puis toi, Roxane, comment tu le vis?
Ben, j'ai le même type de questionnement, mais peut-être pas de la même façon.
Oui.
Je suis un peu dans la même situation que Daphné, au sens où je suis aussi à la maîtrise et aussi boursière en ce moment, fait que c'est vraiment moins préoccupant, puis on a toutes les deux la chance de faire la maîtrise en création littéraire, en fait, donc une seule fois dans notre vie, le droit de passer un an à écrire un livre et à être un peu financé pour, c'est vraiment précieux, mais après, c'est peu importe, moi je travaille dans une maison d'édition, je vais continuer à le faire, c'est pas super payant, mais c'est possible, je veux dire. Tout se peut, je peux faire de la pige, mais il va toujours falloir que j'arrive à aménager mon horaire avec de l'espace pour ça. Puis, tu sais, ça va toujours faire partie de la vie que j'ai besoin de temps pour écrire, que je prenne, je sais pas moi, des mois sabbatiques. Puis, je veux dire, je sens maintenant, là, tu sais, à l'orée de la vie d'adulte, mettons que j'ai pas le choix de toujours me laisser cet espace-là, parce que sinon ça va devenir... Mais c'est ça, c'est un souci plus de besoin de créer que de besoin de publier.
Non, je comprends.
Je pense que je vais toujours trouver une façon de faire un fanzine là, en photocopie, en
donc, justement, brocher, l'aspect monétaire de la chose va pas t'arrêter de publier au niveau d'usine, du moins.
Non. Ben, puis là, je veux dire, j'ai la chance aussi d'avoir un éditeur qui peut voir mes autres propositions et possiblement les accepter.
Mm-hmm.
Mais pour moi, ça représente pas de l'argent. Je regarde pas ma boîte à mal pour savoir si m'envoie mon chèque de droit d'auteur. Ça me semble quand même important, la liberté que ça donne, que ça ne soit pas payant.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Je sais pas comment j'écrirais, comment je préparerais mes performances s'il fallait toujours que ça soit payant. Ça me semble vraiment important.
Ça serait un peu un non-sens.
Parce que des fois, c'est poche aussi. Des fois, on va lire quelque part, puis on n'est pas bonne. Je veux dire, ou comme
c'est
un texte plat, ça arrive. C'est tellement gênant d'être payé pour. C'est tellement comme. Ça serait, des fois, ça serait juste. Pas approprié. C'est difficile. C'est inquantifiable la valeur de ce travail-là. Puis, tu sais, la seule valeur pertinente que ça a pour moi, c'est que moi, j'écris. C'est important pour moi d'écrire. J'arrêterai pas d'écrire peu importe ce qui arrive. Puis, ce que je veux recevoir en retour, c'est la possibilité de partager ça. C'est ça que je demande. Après, c'est sûr qu'il faut que la vie nous permette de continuer d'écrire, mais c'est quand même deux choses séparées.
D'accord.
Mais juste pour ajouter, par rapport au fait de publier avec une maison d'édition ou faire un zine, pour moi, ça devenait un stress quand même de faire accepter mon manuscrit puis de publier avec une maison d'édition, puis ensuite savoir que, par exemple, mon manuscrit, à la fin de ma maîtrise, allait être un deuxième livre.
Oui.
Pour penser que, bon, quand je sors de l'école, je vais avoir deux livres, puis à ce moment-là, je vais avoir droit à des subventions. C'est ça aussi la différence, tu sais, publier avec un zine, je veux dire, auprès du gouvernement, je pense pas que ça va...
Ça peut pas arriver, ouais. En tout cas pas avec ce gouvernement.
Ben oui, je pense qu'il y a comme une différence, le zine, puis publication, maison d'édition, là, ça t'apporte quand même des avantages économiques, pas ouais. Avec les droits d'auteur, mais plus comme si tu veux justement...
Au niveau de la production.
Ouais, c'est ça.
Mm-hmm. Diriez-vous qu'avec une maison d'édition, le choix du scénario, la liberté de... que vous pouvez la liberté qui vous est concédée pour votre ouvrage en tant que tel, diriez-vous qu'elle est rongée par la maison d'édition ou alors c'est quand même assez coopératif comme travail entre l'éditeur et l'auteur?
Ben, je dirais pas que ça gruge la liberté, c'est mm-hmm. seulement pas le même objet qu'on crée avec un éditeur ou tout seul. Comme j'ai dit, je continue de préparer des fanzines. En fait, moi, mon mémoire, j'ai finalement, je suis en train de travailler dessus, mais mon mémoire, c'est pas un recueil de poèmes, c'est un genre de livre d'artiste. Oui. C'est un texte écrit à la main qui va avoir besoin d'un plus grand format que le petit format, mettons, des Herbes rouges. C'est aussi un texte qui, je pense pas qu'il est tant dans les affinités de mon éditeur. Rendu là, je vais faire un fanzine. Pour moi, c'est juste c'est un autre projet. Puis je vais aussi continuer, je pense, de préparer des livres, mais avec... mais c'est un super, c'est un saut d'approbation, c'est un soutien et c'est aussi une certaine aura symbolique là, de publier un livre. Tu sais, j'espère un peu, on se disait tantôt que j'assumais plus mes fanzines, moyen. Je les assume moyen, ils ont 2 ans, ils vieillissent un peu mal.
Mais non parce qu'ils sont des fanzines, mais plutôt parce qu'ils sont vraiment loin derrière toi.
C'est ça, parce que c'est des jalons dans un parcours mm-hmm. qui continue. Là. Je pense qu'on se souvient plus des livres qui sont... tirer un plus grand nombre d'exemplaires, ils sont encore...
Donc, plus accessibles, plus visibles.
C'est ça, puis c'est autant, Daphné, tu dis que Sniff, ça t'a permis d'être connue, autant ceux qui ont Sniff,
ouais.
Ben c'est eux comment? Qui connaissent, je veux dire, ils peuvent pas aller le commander chez Renaud Brie.
Non, mais ils peuvent aller en librairie indépendante.
Ils peuvent aller en librairie indépendante, mais tu sais, ça a quelque chose de plus...
Ouais.
De plus secret, de...
Ben justement, le zine a toujours fait partie, depuis son arrivée au monde, de la contre-culture, ouais. Toujours plus intestine, clandestine, underground. Puis c'est sûr et certain que c'est pas dans les grandes sphères super tape à l'œil et très accessibles et immenses qu'on va le retrouver. Et où on va en parler d'ailleurs, et où on va le mettre de l'avant. Dernière nouvelle, c'est pas chez Archambault et Renaud Brie, puis dans les grandes surfaces comme ça qu'il y a une section zine. T'sais, ça va toujours être chez le libraire indépendant. Puis encore là, ça va dépendre du libraire. C'est pas tous qui en prennent, c'est pas tous qui le mettent de l'avant non plus.
Mm-hmm.
Donc ça reste quand même, malgré sa présence dans quelques librairies québécoises, là, je parle
d'ici. Comme la Flèche Rouge.
Oui, mm-hmm. comme la Flèche Rouge, naturellement. Ça reste quand même un objet, un livre, une création qui a un rayonnement assez restreint. Ouais. Mais d'un
souvent,
autre
on
côté,
l'a pas dit, mais c'est souvent aussi des plus petits formats.
Oui.
C'est des
oui.
textes plus courts. Mm-hmm. Qui sont aussi destinés à être lus plus vite.
Mais là, on parle du zine poétique surtout, parce que le zine, c'est pas juste la poésie.
Non, mais même en bande dessinée, je veux dire, il y a plein d'approches du zine, mais il y en a là, des auteurs de BD qui, pour le défi, juste avant d'exposer en une semaine, font une bande dessinée précipitée. Puis, il y a ça aussi, que c'est un objet à la fois fini et pas fini, justement. C'est je vois ça plus comme des jalons, des tests, des.
Il y a ça, oui.
La notion de tentative, c'est une façon comme à la fois de tenter le coup puis de pas dire voici j'ai fini.
J'ai souvent vu par contre des zines qui étaient des objets finis par contre.
Oui, je suis d'accord.
C'est pas tous les zines qui sont des brouillons, des croquis, des essais ou des études. On se fie un peu au dessin. Hein.
Mm-hmm. Oui, ouais. Ben, je suis d'accord aussi, mais je sais pas comment. Mais c'est sûr que. Mettons que dans mon discours, mm-hmm. c'est l'opposition parce que je fais les deux.
Oui.
Puis avec l'intention de continuer les deux, il faut qu'il y ait faut qu'il y ait une raison, là, je pense, de faire des livres quand on peut faire du zoom et vice-versa.
Mm-hmm.
Et c'est aussi parce que chaque forme nous affranchit des contraintes de l'autre, en fait.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Puis, est-ce que tu ressens ce même affranchissement
avec
le zine? Est-ce que tu te sens plus dans un élan?
Ben moi, je me sens affranchie dans la mesure où j'étais pas capable de trouver ma place dans mm-hmm. le milieu littéraire québécois.
Donc, tu t'es fait toi-même.
Puis, je l'ai fait moi-même. Oui. Puis, je suis bien contente. Ouais.
Puis ça t'a permis d'en trouver une, finalement?
Ouais, ben c'est pas, je pense pas que c'est grâce à Sniff que je me fais éditer ou quoi que ce soit. Puis j'ai vraiment été présente dans les micros ouverts ou, mm-hmm. tu sais, je suis présente sur Internet. Puis je pense que, tu sais, on parlait de canaux alternatifs underground avec la réalité là, des médias sociaux. Là.
Oui.
Je pense qu'il y a cette possibilité-là aussi pour les éditions indépendantes. Puis je parlerais plus au niveau comme même, tu sais, je sais pas au niveau québécois, mais surtout mm-hmm. anglophone. Du moment que tu as un site internet, c'est le monde entier qui t'est ouvert. Ouais,
c'est sûr, c'est certain.
Puis moi, j'achète beaucoup.
Qu'est-ce qui se passe là-dessus au niveau de la communication?
C'est ça. Puis j'ai acheté beaucoup, beaucoup de livres, justement, de poésie qui mm-hmm. me font triper, que je ne retrouverai nulle part en librairie, même à la librairie où je travaille, parce qu'ils n'ont pas de distributeur. Puis c'est comparable aux zines, mais comment ça se fait que moi, genre, tu sais, nobody à Montréal, a été mis en contact, puis a décidé comme moi je vais acheter ça, puis je les achète directement à des gens qui les produisent, oui, oui. ces livres-là. Souvent, ils m'arrivent autographiés avec des messages « Salut Cheyenne, have a good read mm-hmm. ». Puis j'ai vraiment l'impression comme d'avoir un rapport privilégié avec le livre, la personne qui l'a écrit.
Avec l'auteur, avec
l'objet. Ouais. Mm-hmm. Fait que, ouais, il y a ça aussi qui... je pense que clairement, le milieu du livre est en transformation en ce moment. Puis il y a peut-être comme un genre de possibilité que justement l'édition indépendante ou alternative fleurisse grâce à l'Internet.
Oui, tout à fait. Mais c'est un vecteur ouais. très impressionnant, Internet.
Ouais.
Il faut savoir l'utiliser en ce moment parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent que là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui se créent, qui s'organisent, qui vivent au travers de ça. Comme un réseau qui ferait circuler du sang
dans le corps. Des communautés littéraires mm-hmm. qui se retrouvent juste sur Internet. Comme moi, j'ai eu comme un soutien, comme, puis mm-hmm. un lectorat basé sur Internet.
Oui, oui, oui.
Puis c'est vraiment important là, quand t'es genre un auteur, je pense, d'avoir le commentaire de tes pairs ou avoir des gens à qui te rattacher, une figure d'admiration, de trouver au moins une personne qui fait un travail que tu admires. Mm-hmm. Puis après ça, tu sais, parce que c'est dur quand on arrive, comme quand moi je suis arrivée à Montréal, j'ai trouvé ça extrêmement dur de pas trouver où m'inscrire. Mais là, on a Internet qui nous donne plus de possibilités. Ouais.
Oui. D'accord. Puis toi, Roxane, est-ce que tu as la même, j'imagine que tu n'as peut-être pas nécessairement la même approche avec Internet ou les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une partie de ton travail qui se retrouve là-dessus?
Seulement ce qui a été publié dans le
pied. C'est Noun.
Puis Harper, je pense. Harper.
Non, non, non.
Le pied, est-ce que c'est le pied nu dans un hortel ou non, c'est pas ça du tout?
Non, ben là, ce dont Daphné parlait, c'est les Noun dans l'hortel, qui est un blog que Daphné avait écrit avec plusieurs amis.
Ouais.
Quand j'ai collaboré sporadiquement, ça fait longtemps, hein? C'était quand? Genre
2010.
Donc, ça fait 5 ans.
Ouais.
Ouais, mais ensuite, c'est ça, quand moi j'ai fait mon bac à l'UDM, mm-hmm. et à l'UDM, en littérature dans la langue française, il y a une revue étudiante qui s'appelle Le Pied.
D'accord.
Où je suis entrée rapidement comme responsable de la correction, et de fil en aiguille, je suis devenue rédactrice en chef. Puis Le Pied, on s'est créé un site web, c'est un WordPress, mais tous les textes sont publiés en format blog et mm-hmm. on met en ligne les PDF. Donc, mes textes publiés dans Le Pied se sont retrouvés là. Mais sincèrement, pour moi, je pense pas que j'ai jamais eu aucun feedback par rapport à ça, mes publications en ligne. Mais je pense que j'ai aussi... on n'a pas du tout le même style poétique, Daphné mm-hmm. et moi, puis autant j'espère que je fais pas de la vieille poésie, autant il y a quelque chose de très... livre, là, puis de très...
De plus classique,
de,
peut-être.
Comme tous les mots sont un peu péjoratifs à utiliser.
Oui,
mais...
oui, oui, je comprends ce que tu veux dire.
Mais je suis comme... C'est aussi dans cette esthétique-là que je m'inscris comme mm-hmm. tout à fait sciemment, là, je veux dire, moi, les livres dans lesquels je me suis retrouvée, c'est comme... un de mes premiers livres un peu cultes, là, c'est Ruth de Raoul Duguay, dans la collection Lecture en vélocipède, mm-hmm. qui était dirigée d'ailleurs par les frères Hébert, qui sont aujourd'hui... qui ont ensuite créé... la maison d'édition Les Herbes Rouges. C'était vraiment un beau livre. C'est un
donc,
livre...
t'es dans la bonne famille.
Ouais, je suis vraiment dans la bonne famille. Je suis tellement chanceuse qu'il m'a accueilli. Marcel Hébert est mort, donc c'est avec François Hébert que j'ai travaillé, mais c'est quand même impressionnant.
C'est une débouchée très intéressante pour toi, puisque tu partais un peu de...
On est tous pas connus quand on commence, là. Ça juste... on dirait qu'on n'y croit jamais jusqu'au jour où ça arrive, là, parce que notre manuscrit va être accepté, puis c'est merveilleux, parce que c'est pas juste la renommée d'être publiée par un vrai éditeur, puis d'enfin, comme, toucher des lecteurs inconnus, comme, n'ayant pas Internet. Moi, mes fanzines, là, c'est mes amis qui les ont achetés.
Oui.
Et trois inconnus. Mais c'est ça, d'ailleurs, on avait fait un tirage vraiment ridicule.
Mais vous avez gagné quand même un prix.
On a gagné le prix Exposion, oui. Alors qu'il était déjà épuisé.
Pour Cannibal Maison.
Oui, pour Cannibal Maison, le prix du livre. Le crédit, je l'envoie 100% à Coco Simone pour ça. Je pense que c'est vraiment, mais c'est un bel objet.
Je pense que justement, c'est ça, c'est un très bel objet. Les matériaux utilisés pour sa conception, puis la mise en page intérieure, l'illustration, c'est sûr.
Oui, j'aime vraiment beaucoup.
Je dis ça parce que j'ai pas eu le temps de lire tout le texte. J'ai juste vu la plastique.
Oui, mais en fait, c'est ça. Les textes de Cannibal Maison, je l'ai travaillé super longtemps avec Coco Simone. On s'est assis ensemble, on l'a monté ensemble.
Donc, c'est pas parce que c'est un zine que c'est obligé d'être quelque chose
vraiment pas botché.
Non, c'est ça.
Ça peut être quelque chose
de très réfléchi, de très travaillé.
Ouais, on l'a beaucoup soigné, ce petit objet-là.
Ça paraît.
Puis finalement, j'ai écrit des textes en parallèle. Je veux dire, ça m'a travaillé pendant 6 mois, puis un an. Puis finalement, un autre texte que j'avais écrit en parallèle à Cannibal Maison et compose les trois premiers poèmes de mon recueil.
D'accord.
Et c'est comme fait son chemin.
D'accord.
Voilà. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai plus une culture de livre, en fait.
Mm-hmm. Donc, une culture, c'est ça, plus livresque, plus classique, là, sans le péjoratif. Parce que c'est vrai que le classique, c'est pas péjoratif, c'est juste que souvent, ben là, on l'associe à quelque chose de plus statique, de peut-être pas assez, alors que c'est pas du tout ça.
Non, mais c'est un monde qui est pas nécessairement très accueillant.
Non, c'est sûr. C'est pas difficile de faire plus austère. Oui.
Mais il y a des textes qui s'inscrivent, je veux dire, au même titre que je vais pas lire les mêmes choses si je vais dans une lecture. Il y a un texte que je vais transformer en vidéo, mais je ne le ferai pas avec tous mes textes. Ou,
non, c'est sûr.
Ça dépend des formes. Le texte, c'est multiforme. Puis même les textes qu'on retrouve dans Sniff, je n'irai pas, par exemple, les lire dans un bar.
Ouais. Je comprends ce que tu veux dire.
Ouais.
Bien, voudriez-vous enchaîner avec... peut-être une lecture d'un extrait ou d'une partie de votre œuvre, chacune. Est-ce que ça vous tente?
C'est moi qui commence.
Bon, Daphné va commencer.
Oh my God! Est-ce que je dois me lever?
Non, tu peux rester assise. En fait, non, lève-toi sur la table.
Donc, alors, OK. Je vais vous lire quelques pages parce que c'est quand même un recueil assez bref. Donc, Sniff, poème de Single Ladies. Sniff. C'est le moment d'ouvrir un fichier Word et de parler de ses larmes. Je suis forte. C'est ce que je me répète en écrivant des phrases qui te traitent de salaud. Quoi faire? Je me fais un bon thé, un bon chat, un bon film, un bon bain. Un bon rien. Rebound. T'es où, maudit chien? Que je t'embrasse, qu'on se marie partout, le temps que ça passe. Une bambino to go, un club table 25. Et je pense à nos bambinos, à nous, deux œufs over bacon. Nous ne nous aurons plus un hot dog, moutarde, oignon. Chou, c'est écrit sur mon pad que les gens meurent et se réveillent tout le temps. Écoute ce que le ciel dit. Il dit j'existe. Il dit j'ai deux jambes, deux, trois belles robes, des cheveux bruns. Il dit je t'aime. Il se déchire dehors, il tonne mon homme et le ciel, il dit tout haut ce que je pleure tout bas. Il fait moins 45 ici. En bas de ma gorge, il fait glacial, pas plus loin que le bout de mon nez. Il fait souffrir d'avoir tracé dans la neige des pare-brises, des messages. Il fait vide, il fait blanc, de les effacer. Quoi faire? Me refaire une beauté, une confiance, un masque d'argile, une pédicure. Tu l'aimes, mon nouveau vernis? T'es mieux. Voilà.
Merci. C'est bon. C'est à toi.
Ouais,
Mais où est Cannibal Maison?
Il est là. Mais je pense que je vais le faire pour la seule fois de toute ma vie.
Alors, on a une exclusivité ici. Voilà. Je répète, on a une exclusivité.
Je vais lire les textes de Cannibal Maison, puis ensuite, je vais te piquer...
Ciseaux. Précis.
Je vais lire le texte en parallèle, qui est aussi le bonheur d'être retravaillé avec les commentaires de François Hébert. On n'en parle pas beaucoup, ou c'est peut-être, je sais pas, c'est très personnel et difficile à décrire le travail d'édition littéraire. Oui. Ça a l'air, j'ai l'impression qu'on tient beaucoup à l'autorité de l'auteur sur son texte, soit au fait que c'est nous qui l'avons fait, mais c'est vraiment moi qui l'ai fait le livre. Mais François Hébert, il m'a souligné une quantité vraiment impressionnante de bébites dedans, puis il est vraiment meilleur à cause de ça. C'est vraiment... Je veux dire, il m'a peut-être suggéré des solutions des fois, puis c'est tant mieux. Puis je pense pas que... En tout cas, moi, j'estime vraiment beaucoup ce que ça m'a apporté, autant comme lectrice et comme écrivaine, que ce que ça a apporté directement au livre. Puis je pense qu'à force de travailler avec lui, je lis mieux et je travaille mieux mes textes. Je pense qu'à mesure, je souhaite un jour qu'il me sorte moins de commentaires. Mais non, mais c'est vraiment impressionnant, tout ce qu'on peut faire à un texte. Et je voulais premièrement Cannibal Maison. Je pense.
Non, c'est correct. Tout va bien.
Cannibal Maison. Je prends l'assaut du corps au corps de l'autre. Je touche du bout d'un doigt qui n'a rien à tenir, qui ne tient à rien. Celui de moi qui marche à long avant de percer. Je ne trouve pas ton petit trou. Tout est sorti de mon corps. Mes mains n'ont pas la force des travaux d'aiguille. Mes mains, mes ongles, mes muscles, à bout de bras. Je pars d'en bas du plus difficile, du plus maigre, avec des fusils de haine cachés dans les dents. Le pire, c'est contourner les os.
C'est tout, mais là!
C'est le livre. Non, mais je suis... c'est le livre d'Olivier.
Oui, c'est le livre d'Olivier.
Dédicace vraiment jamais. C'est devenu, c'est ça, le texte que j'écrivais en parallèle parce qu'on cherchait un texte très petit pour Cannibal Maison, puis ça débordait. J'ai fait un texte qui a été d'abord un texte de scène avant d'être transformé en trois poèmes qui ouvrent mon recueil et ça s'appelle « En l'honneur du cannibal ». Pour que tu lèches l'intérieur de ma gorge, tu traces la paix que j'ai, qui se tasse quand j'atteins les eaux ouvrables, que je replace parmi les côtes avec ma boîte crânienne. Je n'ai pas mangé le lion, je ne vais pas au front jeter le cadavre. Je veux me lancer dans un carnage de sous-sol, sur mes propres genoux, sur ma propre peau, m'enfiler le ciseau par la bouche et décider du sort des vertèbres et dépecer les muscles attachés. Je ne pars pas à la beauté envisageable, je ne vends pas mon corps algonquin, je n'ai qu'une chaise à la place des reins pour rester debout. Mais tu te déplaces au pas de course sur mes poumons parce que tu habites au sommet de ma tête une envie démesurée de dévorer les autres. Il y a des hommes qui menacent mes portraits, ce que j'ai avec le désir caché sous les ongles, ce que j'ai pour retenir la ruée. C'est une chaise droite, une hanche et demie et le refus de m'étendre longtemps. Oui.
Continuer brièvement dans la lecture, j'ai ici sous la main Audrey-Anne qui fait ce petit dîme ici.
Je ne suis pas préparée.
Et elle ne le savait pas, mais comme elle est là, je vais lui demander de lire un tout petit extrait.
Tu peux choisir lequel.
Audrey-Anne écrit pour ce dîme-là en cercle vicieux. Donc, c'est des petits textes qui n'ont ni début ni fin, qui pourraient être liés à l'infini d'une façon très lancinante.
Je vais juste comme, tu sais, étant donné que je suis un peu à l'improviste et que je sais pas lequel choisir, je vais juste comme les lire en ordre puis arrêter à un certain point. Fin sans début, ni fin sans début, ni fin sans début, ni fin sans début, ni fin. encore, un autre monde qui disparaît sous un autre monde encore, qui disparaît sous un autre monde, qui disparaît sous un autre encore, un autre monde qui disparaît sous un autre monde encore, qui disparaît sous un autre monde, qui disparaît sous un autre. Des trous se cachent encore eux-mêmes parce qu'au fond, des trous se cachent encore eux-mêmes parce qu'au fond, des trous se cachent encore eux-mêmes. Au fond, des trous se cachent encore eux-mêmes. Au fond, des trous se cachent encore eux-mêmes. La recherche d'être à la recherche de la recherche d'être à la recherche de la recherche d'être à la recherche de la recherche d'être à la recherche d'être à la recherche d'être l'apocalypse de demain. Et là, aujourd'hui, déjà l'apocalypse de demain. Et là, aujourd'hui, déjà l'apocalypse de demain. Et là, aujourd'hui, déjà l'apocalypse. De rien, du tout. Tout passe, si rien ne se passe de plus que ça. Passe, si personne ne dit de rien du tout, passe. Si rien ne se passe de plus que ça. Passe, si personne ne dit de rien du tout. Nous sommes tout le monde autour de tout le monde autour de nous sommes. Tout le monde autour de tout le monde autour de nous sommes. La mort décompose la vie, compose la mort, décompose la vie, compose la mort, décompose la vie, compose la mort, décompose la vie.
Donc, le zine comme objet poétique est tout à fait approprié, selon moi. Les personnes, les artisans, les artistes qui décident d'utiliser cette forme d'expression pour... je me suis emmêlée dans les fils. Je vais faire ça après. Cette forme d'expression pour exprimer un sentiment, une idée, comment je pourrais dire, un élan, peuvent retrouver dans le zine le vecteur idéal, finalement, parce que, bon, ben, c'est ça. C'est sûr que, comme avec le recueil, ou plutôt, contrairement au recueil, il n'y a pas de retravail. C'est peut-être moins léché, à moins que là, ce soit pour un projet particulier, puis qu'on veuille un résultat particulier. Fait que là, on va y mettre beaucoup d'une autre, puis on va plancher des heures dessus. Mais autrement, ça peut être quand même aussi comme un spasme sans retravail, plus brut. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un contenant qui laisse réellement libre cours sous toutes ses formes-là à l'expression, quelle qu'elle soit. Que ce soit au niveau, justement, poétique, plutôt... d'art visuel, plutôt explicatif, plutôt dénonciateur. Donc, voilà.
C'est vrai. Oui. Merci.
Merci. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui auraient une opinion?
J'ai comme un élan, là. C'est que j'ai l'impression que ça donne extrêmement de liberté. Puis, tu sais, des fois, on a l'impression, tu sais, dans le postmodernisme, que tout a été fait. Mm-hmm. Ben, en fait, le zine, je trouve que c'est comme un échappatoire un peu à ça, à une forme un peu plus... normative du livre qui justement nous laisse l'option de rendre l'objet comme complètement personnalisé puis de se refléter un peu à travers cet objet-là dans toutes ses formes, dans toutes ses grandeurs, où est-ce qu'il n'y a plus de balises ou de barèmes ou de comme de dans limite, le mien par exemple, je donne un exemple, tu sais, en faisant les impressions, il y avait un problème avec le risographe, ce qui fait que toutes les pages sont arrivées croches. Puis c'était pas voulu, tu sais, moi je me disais dans ma tête, ok, tu sais, un livre ou comme quelque chose, tu sais, qui se lit, il faut que ce soit égal.
Donc tu idéalisais ton résultat, exactement, en fait, c'est normal.
Exactement, j'idéalisais un peu le résultat en ayant en tête une vision. Puis c'est le problème technique que je considérais sur le coup comme une erreur, qui finalement a personnalisé le livre, puis qui le zine, puis qui est devenu finalement authentique.
Mm-hmm. Ça en a fait finalement spontané, un objet vraiment à part.
Exact.
Mm-hmm. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait un... Oui, Pierre.
Moi, je connaissais pas vraiment l'idée, en fait, dans cette forme-là. Je pensais pas qu'on pouvait faire des zines comme ça en imprimant, etc. Mm-hmm. Ce que je faisais avant, c'était d'écrire qu'à la main.
Oui.
Je prenais 3 jours, 4 jours pour faire un truc. J'avais des cloques sur les doigts. je les donnais à ceux que j'aimais bien. Et avec le zine, ce qui est cool, c'est que tu peux aussi les donner à ceux que tu connais pas.
Oui, tout à fait.
Et ça, c'est vraiment excellent. Et si, je trouve qu'il y a quelque chose d'excellent aussi dans cette idée, c'est que si tu regardes, si tu mets ça dans un contexte beaucoup plus grand, celui de la finance, l'économie, des trucs pour faire de l'argent, Ben ça, c'est sans le vouloir forcément, la personne ne veut peut-être pas, c'est un peu, en fait, ben ça fait un peu de la résistance.
Ben c'est la publication de Zine vient comme un peu à l'antithèse de la nécessité de faire de l'argent, ou disons-le, du capitalisme.
Complètement. Alors, même si le poète ou l'artiste qui fait un zine n'est pas dans une optique, d'une perspective de résister ou de faire ces choses-là, mais il le fait sans le vouloir.
Oui, oui, tout à fait. Excellent. Voilà. J'aime et beaucoup merci. Le point que tu viens d'apporter. Oui.
Mais aussi sur les moyens de production, parce que parler de do it yourself, mm-hmm. ça peut être fait à la main, c'est possible, mais ça me semble quand même des ouvrages assez achevés. Souvent, on fait affaire avec certains imprimeurs, ou c'est parce que certains lieux de production existent. Mm-hmm. Il y a tout un réseau de production,
mais oui.
Un lectorat.
C'est certain, c'est sûr, mais en même temps, puis je vous invite tous, là, quand la discussion sera terminée, à aller voir la section zine. Oui, il y a certains zines qui vont être vraiment, vraiment plus industrialisés, dans le sens où ça va avoir été fait en imprimerie avec des imprimantes de grande qualité, les papiers vont être coûteux. Oui, ça se peut. Puis il y a aussi d'autres zines qui vont avoir été faits vraiment avec, disons-le, les moyens du bord. Alors, on parle même pas d'imprimerie parfois, on parle... De ton imprimante de bureau, en fait, de salon, ou carrément d'une machine à écrire. Puis là, bon, c'est sûr, machine à écrire, ça réduit le tirage, on s'en cachera pas. On peut parler aussi de techniques comme le risographe, qui est un peu comme une photocopie, mais une photocopie qui vient ressembler à la sérigraphie en même temps.
Exact, c'est comme une presse automatique, mm-hmm. en fait.
Puis hors aussi du fait que, bon, là, les papiers... d'aspect plus riche, pas dans le sens monétaire, mais dans le sens de la qualité, ben il y a aussi tout un mouvement qui s'alimente en fait en matériaux récupérés. Fait que oui, c'est vrai, ton zine peut ne rien te coûter. Par contre, c'est sûr que là, si tu veux un vélum, t'en trouveras peut-être pas, va falloir que tu travailles avec un autre matériel, mais c'est possible de produire un zine qui te coûtera rien. C'est possible, sur des retailles puis des restants de matériaux, de produire un super bel objet qui ne te coûtera pratiquement rien.
Moi, je suis quand même impressionné que 500 ans après l'invention de l'imprimerie, on est encore à démocratiser les moyens d'impression.
Oui.
Oui,
c'est vrai que
ben,
pendant longtemps, le livre a été très élitiste. Oui, oui. Pendant longtemps, le livre a été, de par sa nature manuscrite, a été très, très, très élitiste, dans le sens où c'est que certaines personnes très, très fortunées qui en avaient, parce que bon, le temps d'écrire ou de copier dans l'Illuministe, ça en faisait des ouvrages très précieux. Les reliures étaient faites avec des métaux précieux, incrustés de pierreries. C'était vraiment impensable pour monsieur, madame, tout le monde de l'époque d'avoir une bibliothèque. Je veux dire, les gens qui avaient beaucoup de livres, on avait peut-être 3, 5, quand c'était pas carrément, je veux dire, quand c'était pas des ordres religieux qui avaient eux-mêmes des archives ou des bibliothèques, les individus avaient très peu de livres, puis... Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, back in the days, avec l'invention de l'imprimé, ça a vraiment propulsé le livre avec un lectorat puis une accessibilité beaucoup plus grande. Mais même à ça, aujourd'hui, ça reste un objet qui n'est pas nécessairement accessible. Le livre, c'est drôle, mais c'est vrai. Souvent,
mais parce qu'un livre, c'est pas seulement l'impression, mais c'est aussi tout un réseau de distribution.
Oui, c'est ça. Là, je ne parle pas juste d'inaccessibilité de par son contenu. Je parle de l'objet livre, demeure. Souvent, un objet qui est inaccessible pour beaucoup de personnes. Puis, tu sais, je veux dire, moi, quand j'étais aux études à l'UQAM, m'acheter 2, 3, 4, 5 livres neufs par mois, j'aurais bien voulu, mais je ne pouvais pas. En plus, j'étais en art visuel, tout mon argent de poche passait en matériaux d'art. Fait que du coup, ben, pour les micro-publications, le zine, les publications indépendantes qui étaient moins chères, puis ben, ça faisait en sorte que la littérature restait quand même très accessible pour moi.
Donc. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi comme un truc de truc, là. Je sais pas si tu vas dans l'infosine, c'est juste ça que tu fais, tu les achètes pas, tu les échanges.
Oui, quand
tu
es auteur, tu peux faire ça comme ça.
C'est vraiment le fun.
Oui, tout à fait. Oui, vraiment.
C'est tous les automnes.
Ah, c'est tous.
Donc, c'est passé, mais ça s'en vient. Okay.
C'est une autre manière d'acheter, consommer.
Oui, tout à fait.
Vraiment. Alternative, puis mm-hmm. en même temps, ça crée un réseau là,
tout à fait,
artistique, social.
Je trouve que c'est vraiment en harmonie mm-hmm. avec l'objet zine, dans le sens où ouais. de justement pouvoir ne pas payer pour l'avoir, c'est vraiment... Mm-hmm. Je trouve que ça vient vraiment en harmonie avec la chose.
Ouais.
Mm-hmm. Oui. J'aurais peut-être juste une petite question pour Cannibal, mais c'est plus question de contenu fort. Est-ce que vous avez travaillé beaucoup, c'est pas des illustrations, mais des
peintures. Ouais, c'est des angles de Chine.
Est-ce que ça. Est-ce que
que le poème va avec le fond que vous...
Oui, oui. En fait, c'est ça, comme je l'ai dit, c'était un projet qui m'a été proposé par mon amie Coco Simon-Finken, qui, elle avait déjà lu mes poèmes. Je veux dire, c'était un ami projet que je faisais lire ce que je faisais, puis elle m'a proposé ça, puis en fait, Cannibale Maison, ça a été notre titre de travail pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'on soit prise pour mettre un titre, puis on s'est dit, ça peut juste s'appeler comme ça. Mais on s'est envoyé lire on lisait, on écoutait des films, on se disait, tu relire Les Enfants du Sabbat d'Annebert.
Ah, mon Dieu!
Ouais. Donc, on s'est vraiment alimenté mutuellement. Les images ont été faites à un certain point dans ce processus-là, mais encore là, la forme du livre, on l'a construite à peu près en même temps qu'on a mis au point le texte. Moi, j'ai dû proposer comme 10 fois le texte qu'il y a dans Cannibale Maison, puis on a épuré jusqu'à garder ça. Donc, c'était probablement une des activités créatrices les plus... Mais c'était très exigeant d'un côté, puis c'était très nourrissant aussi d'avoir accès à ces illustrations-là pour écrire. Fait que les images viennent avant, en quelque sorte, mais ça, on a vraiment maturé tout ça à deux. C'était cool.
Cool.
Je pense aussi, une autre chose qui particularise le fanzine, c'est la possibilité de collaborer. Là, on a parlé beaucoup d'échanger avec d'autres personnes, mais le milieu de l'édition n'est pas du tout disposé à accueillir
des collaborations.
C'est sûr qu'il existe des livres collectifs, mais c'est des livres qui se vendent moins bien.
On parle de collectif, donc de vraiment plusieurs personnes, pas d'une collaboration de deux auteurs ensemble.
C'est ça. Livres illustrés, c'est super compliqué, parce que les éditeurs, évidemment, ils font des budgets. C'est tout un système... extrêmement élaboré, qui est juste, c'est pas par mauvaise foi, mais ils peuvent pas accueillir cette Cannibale Maison, mais tous les autres projets que je vais faire avec Coco Simone, il y en a des situations exceptionnelles, mais je pense que particulièrement pour ce type de partage créatif, ça se prête bien.
Oui, tout à fait.
Pour créer, pour échanger une fois que c'est fait, c'est ça.
Oui.
Moi, j'aurais une question pour nos deux autrices. Qu'est-ce qui vous pousse à publier et qu'est-ce qui vous pousse à ne pas publier? Parce qu'en fin de compte, il y a une facilité justement dans le fanzine, comme Daphné disait, dans l'Internet, de publier assez rapidement. Puis on a ce qui sous-tendait la discussion aujourd'hui, c'est aussi l'idée du travail d'édition qu'il y a dans le livre et qu'il y a potentiellement moins dans le fanzine. Mais elle est où cette ligne-là où on décide de publier? Et pourquoi on le fait, puis aller où la ligne où il y a quelque chose qu'on ne publie pas, qu'on veut garder pour soi, ou qu'on qui ne serait pas désirable.
Mais j'ai comme donné une partie de réponse tantôt, dans le sens où quand c'est important pour moi de créer, comme je pense que c'est important pour Roxane, puis en fait, il y a tout un travail de légitimation, derrière la publication, les canaux éditoriaux traditionnels. Puis c'est nécessaire à l'accès aux ressources que le gouvernement peut nous donner ou avoir une certaine reconnaissance. C'est pas nécessairement comme ça à quoi on veut tendre quand t'écris, mais tu veux donner les moyens d'écrire. Mm-hmm. Puis pour te donner les moyens d'écrire, ben tu dois quand même passer par la publication.
Puis à propos du choix de publier, par exemple, je pense que ta question avait aussi un aspect
plus personnel.
Mettons ce texte-là, pourquoi tu le publies, ce texte-là, pourquoi tu le publies pas? Ben, comme je viens d'en parler, c'est un processus qui peut être infini, là, de travailler puis retravailler ces textes. Puis c'est le moment de publier, c'est le moment où il faut que ça soit terminé. Là. Je pense que ça permet de passer à autre chose de publier, en fanzine ou en livre.
Oui, en effet. En effet, en fanzine également.
Je pense pas que pour ça il y a une différence entre les deux. Là. C'est le moment où on considère qu'on pourra pas amener ça plus loin. Puis le moment aussi, on ne peut pas l'amener plus loin et on a besoin des autres pour l'amener plus loin.
Puis on veut passer à autre chose aussi dans notre création.
Moi, j'ai fini Cannibale. Là, j'ai écrit mon autre poème à côté. Puis maintenant, je peux écrire d'autres choses.
Ça semble formuler comme étant un acte très personnel.
Ben oui.
Malgré que la publication, c'est le frère, en fait, compte à la vie de tous.
Ouais. Mais la décision, à la base, demeure très personnelle. Ce travail-là, je me sens apte à le montrer, je sens qu'il est prêt à naître, ou je pense qu'il devrait encore être en gestation, ou alors qu'ils devraient rester cachés.
Mais cachés, pas cachés, mm-hmm. C'est comme pour moi, je trouve que c'est, qu'est-ce que Roxane mentionnait là, brièvement comme ça, là, c'est que quand ton texte, tu l'offres aux autres, eux, après ça, ils vont le transformer, puis ils vont en faire quelque chose de beau, de... t'as plus de contrôle sur ton texte une fois qu'il est sorti. Puis ça, c'est beau, mm-hmm. je trouve. Puis je pense que n'importe quel auteur ou artiste aime ça.
Mais je pense que c'est pour ça qu'on ouais. partage les arts. Là. C'est parce que, je veux dire, c'est pas un acte de communication, mais c'est un acte de transmission.
Mm-hmm.
Ou de je vais dire le mot partage.
Oui, c'est exactement le mot que j'avais en tête.
Vas-y, c'est comme un peu aberrant d'utiliser le mot partage pour ça, mais de...
Ben, la transmission est une forme de partage d'une connaissance ou mais d'un c'est état ça, d'être.
Pour ce qui est de la poésie, parce que c'est ça que je connais, je peux effectivement écrire des poèmes pour plein de raisons et de plein de façons, mais le moment où je décide qu'ils sortent ou qu'ils sortent, ben, ça a un effet de jalon, ça a un effet d'abandon.
Mm-hmm.
Puis aussi, c'est assumer. C'est le moment d'assumer. C'est mm-hmm. pour ça qu'on fait mm-hmm. de tout. Mais... et qu'on vit avec ces publications-là comme on peut, mais c'est aussi assumer qu'il y a comme, ben c'est exister, premièrement, pour ouais. les lecteurs, puis c'est assumer que ce qui existe de nous, c'est ça.
Mm-hmm.
Puis que ça va être pris, on sait vraiment, vraiment pas comment. Il y a une critique qui est parue sur le site de Poème Sale de mon recueil qui le lit comme un recueil de rupture amoureuse.
Ah ouais?
Ouais.
C'est bizarre.
Mais moi aussi, j'ai trouvé ça étonnant, mais en même temps, la lecture ouais. qu'il fait, c'est, tu sais, pour lui.
Ouais.
Dire, non, mais ça se fait comme lecture, c'est une lecture possible, puis tant mieux, tu sais, si ça peut...
Et ça, je veux pas monopoliser les questions, mais
non, vas-y.
Je me permets de le faire pareil. Ouais. Mais comment, en fait, comment vous vivez ça, justement, ce retour-là, ou cette idée que les gens en font quelque chose d'autre, comment ça se matérialise?
Ouais, ça donne un sens à ce qu'on fait, je pense.
Parce qu'à la base, je veux dire, un écrivain est aussi nourri de l'écriture des autres. Mm-hmm. Puis c'est là que ça commence. Moi, je pense que c'est comme mon premier contact avec la lecture. On en a parlé tantôt, mais tu sais, quand t'apprends à lire à 7 ans, puis un moment où comme boum, genre les portes s'ouvrent, puis t'as compris que tu viens de rencontrer la magie. Puis si toi t'es capable d'être une magicienne aussi, comme, puis de faire ça dans la vie des autres, c'est magnifique. Fait que... Là, je sais pas, je dérape, je sais plus qu'est-ce que je voulais dire.
Mais,
donc, tu sais, je veux dire que moi, mettons, ma vie, elle s'est enrichie de toute la lecture que j'ai faite, de tous les auteurs que j'admire, puis ils sont là avec moi tout le temps. Fait que c'est sûr que quand, comme je disais, c'est important de trouver quelqu'un que t'admires ou des choses que t'aimes. Bien, une fois que t'admires quelque chose, mais en quelque part, tu aspires à atteindre cette personne-là que t'admires. Donc, à faire partie de la vie des autres comme ça aussi, là, je sais pas.
Comment tu te rends compte que tu es une magicienne?
Je pense
que c'est avec les feedbacks des autres.
Ouais, il y a des moments magiques, je pense que ça existe, mais je pense que c'est pas genre, c'est pas coulé dans le béton, là, la magie, c'est un truc de luciole.
C'est très volatile, la magie.
C'est, ça s'éteint, ça s'allume, c'est ça.
Ça surgit de façon improbable.
Ouais.
Est-ce que vous croyez qu'il y a une différence, dépendamment si on fait un fanzine ou si on fait un livre, dans cette espèce de possibilité d'avoir un feedback?
Il y a beaucoup plus de critiques de livres que de critiques de fanzine. Pour les critiques.
Y a-t-il des critiques de fanzine?
Oui, il y en a. Oui. Moi, j'ai eu une critique de France dans Publication.
Mais je parle au niveau plus officiel, pas nécessairement de façon. Plus,
ouais.
Oui, officiellement.
Oui, ça se trouve. Mais le fanzine, souvent, à peu près tout le monde qui a notre fanzine, on l'a vu puis on l'a mis dans ses mains.
Mm-hmm.
C'est, le retour est à la fois plus sympathique et possiblement moins brutal. Je pense qu'il y a une certaine brutalité qui peut s'installer dans la distance, mais qui est très saine.
Ben, il y a un recul, en fait, donc la personne se sent moins émotivement impliquée.
Pour moi, c'est vraiment une chose précieuse que j'ai pas été obligée d'avoir une photo de moi sur mon livre, ni dedans. Puis j'ai pas envie de toujours être à côté du livre pour le présenter, pour l'amener. J'espère que ce qui est écrit dedans suffit. Puis ça, c'est une chose très très différente entre le livre et le fanzine. Alors que le fanzine, c'est quand même cool aussi de pouvoir voir tes lecteurs, mm-hmm. puis qui t'en parlent. Mais moi, j'ai reçu vraiment plus de commentaires sur le livre que sur le fanzine.
Mais tu trouves-tu que, comme, avec un fanzine, moi, par exemple, si je tombe sur un fanzine, là, je me sens privilégiée. T'sais, j'ai l'impression d'avoir accès
à un trésor.
Fait que c'est sûr que mon rapport avec un fanzine puis un livre est différent. Là. C'est comme si j'étais allée dans un bazar, puis j'avais trouvé un bijou unique. Que, tu sais, c'est juste comme la vie m'a mise sur le chemin du bijou.
Ouais. Mais le fanzine, je pense que c'est un objet à honorer particulièrement parce qu'il y a un soin vraiment.
C'est différent. Il y a plein d'amour dans le fanzine.
C'est un amour peut-être plus direct dans l'objet.
Dans l'objet, oui. Il y a aussi le fait que, bon, mais avec la largeur, la diffusion du livre, le livre est plus apte à. Ben, pas plus apte, mais il est plus à même d'être critiqué par toutes sortes de personnes. Alors que le zine, qui va quand même pas être publié de façon mégalomane, risque d'avoir moins de critiques seulement parce que moins de gens l'auront vu.
Ouais,
sans doute que les critiques de zine ne le verront pas non plus, donc ils pourront pas critiquer dessus.
Mais en fait, c'est vraiment parce un livre qui existe. Moi, je trouve ça heureux, là. Je sais que ça institutionnalise d'une certaine façon, mais toujours par la bande. Et les prix Exposine, puis les prix du Gala de l'Académie de la vie littéraire, qui est animé par Catherine Cormier-Larose et Mathieu Arsenault, ils donnent des prix à des livres et à des zines. Le Gala Exposine.
Dans ce cas-là, c'est dans un milieu où le zine est quand même prédominant ou très présent.
Oui, mais c'est comme ça. C'est un milieu. Comme c'est très communautaire, forcément, il y a des gens qui entrent dans ce milieu-là, mais on peut pas rester en périphérie totalement puis consommer du fanzine.
Non, vraiment pas.
Mais ce qui est fun aussi avec les zines, c'est que justement, quand tu le fais parce que c'est un besoin. Puis t'as aucune intention d'être reconnu ou aucune arrière-idée, là, tu sais, des petits anges qui te disent « Ah, peut-être qu'un jour, tu sais, il y a des gens qui vont cogner à ta porte puis te donner un prix. » Non, tu sais, justement, c'est vraiment un cri du cœur, en fait.
Oui, mais on le sort aussi quand même pour qu'il circule puis qu'il sorte de
Il faut que ça sorte, c'est ça.
Ben, moi, personnellement, comme je l'ai sorti en pensant comme c'était peut-être une démarche différente, mais comme j'ai goût de faire un objet qui a comme un début puis une fin, puis de le donner comme à des gens qui vont lire ou des gens en littérature que je vais rencontrer. Puis j'avais quand même, tu sais, je voulais pas de la reconnaissance, mais c'était une manière
Je parlais de la reconnaissance au point de vue comme une reconnaissance
parce que j'ai parlé des prix
académie, non.
Une reconnaissance dans des concours ou
Mais il y a personne, en fait, j'ai pas l'impression que personne crée pour être, tu sais, genre pour avoir un prix, là. T'sais, je vais pas écrire un livre en me disant je vais gagner un prix.
Mais par exemple, au cinéma, quand tu t'envoies ton film dans les festivals, tu veux qu'avant tout, que ce soit vu.
Ouais.
Mais malgré tout, t'es quand même en compétition.
C'est quand même un espoir aussi.
Ça brime quand même une certaine partie de l'esprit, tu sais, que tu regardes les autres films avec quand même un arrière-pensée. Tandis que je trouve que dans la liberté d'usine, il y a cet aspect-là aussi qui fait du bien, tu sais, c'est qu'il y a aucune.
Ouais.
Il n'y a pas de compétition, c'est ça.
Ouais, alors moi j'ai lu le mode de recueil et j'ai beaucoup aimé. On se rend compte dans votre intimité, j'ai l'impression que c'est assez incroyable. Et pourtant, je l'ai lu qu'une seule fois. Mais sinon, j'ai cru aussi des poèmes. Alors je sais que la question que je vais faire elle est un peu spéciale. Vous en avez un peu parlé, mais comment vous créez, comment un poème vous vient. C'est spécial parce que.
C'est généré par une émotion intense, une situation particulière.
New document, open. Time New Roman, point 12.
Ah ouais, moi c'est Garamond.
À Garamond, j'aime bien.
Ouais, moi j'écris à Garamond. Non, ou des fois sur des vieilles factures dans un taxi qui est vraiment très tard.
Toute forme de papier disponible.
Ouais, mais ça serait écrit.
Écrire dehors l'hiver, c'est un bon défi.
surtout à Montréal.
Mais ouais, non, pas de routine. Mais récemment, en fait, j'ai eu la chance d'être invitée à participer à une revue estuaire pour le thème de crime. Il vient juste de sortir. C'est un super bel objet. Je suis vraiment convaincue que c'est beau, mais c'était vraiment difficile. C'est un crime. Et chaque fois que je suis invitée à écrire, c'est vraiment différent, sauf que finalement, c'est pareil. Mais je veux dire que peu importe la situation, j'arrive pas, même en sachant, mettons, estuaire, là, j'avais une date de remise, mais j'ai pas plus eu de routine d'écriture. C'est, ça finit toujours par être comme un poème écrit à 2 heures du matin en pleine insomnie, puis retravaillé 200 000 fois après. Je pense que au moins écrire des poèmes, c'est plus réécrire.
Retravailler, ouais.
On dit que c'est terrible de sortir les premiers vers, c'est la pire chose, là.
La réécriture, donc, c'est l'écriture.
Donc, tu dirais que de l'écrit sort le poème, finalement.
Pour moi, ouais. Oui. Mais je veux dire, ça s'appelle pas ciseau pour rien non plus.
Ouais, j'aime ça faire delete.
Oui, ben vraiment, là, biffer, revenir. Puis c'est fascinant comment à un certain moment d'écriture, tu dis ça y est, je pense que ça va être ça. Puis là, tu ouvres le fichier le lendemain, puis tu fais oh.
Ouais.
Mais c'est important aussi. Moi, je trouve ça très plaisant de biffer, justement.
Oui.
Ben, je pense que c'est là que ça exerce le plus notre liberté d'écriture, même, dans le choix de ce qu'on retire.
Puis dans le pouvoir de détruire ce qu'on veut pas.
Ouais, puis dans c'est ça, mais parce que en fait, si je mets ça puis j'écris, je peux écrire vraiment n'importe quoi, mais ce que je vais choisir de garder, mm-hmm, puis de publier, c'est ça.
Là, ça va être autre.
C'est ça, parce que je pense qu'on porte vraiment, vraiment beaucoup de textes possibles, puis que notre liberté et notre...
Ou la liberté qu'on s'accorde.
C'est ça, mais tu sais, la qualité des écrivains, c'est aussi le choix qu'ils font parmi oui, tout ce qu'ils pourraient faire de créer.
Mm-hmm. Je sais pas quoi dire. Parce que moi, je publie sur Internet des fois, oui, puis c'est souvent des trucs en chantier. Là, je fais des captures d'écran, puis les gens aiment ça ou aiment pas ça. Mais après ça, tu sais, je vais peut-être inclure ça dans un poème plus long que je vais lire au Bistrot de Paris. Puis après ça, je vais peut-être couper ça en 4 morceaux, puis ça va devenir 4 poèmes. Mm-hmm. Fait que j'ai vraiment pas... tu sais, ça bouge, ça...
C'est pas statique, c'est comme non, un genre d'évolution, ça de dépend, transformation...
Ça dépend du support, oui, de la plateforme, puis tu sais, comme au niveau du papier, j'aime ça quand c'est vraiment des petits poèmes, là, genre des mini fragments, mais quand je vais lire, je sais très bien que tu sais, il faut qu'il y ait un souffle.
Ça prend plus. Mm-hmm.
Fait que c'est différent.
Mm-hmm. Ouais. C'est vrai que c'est pas la même écriture. Même moi, ça m'intimidait beaucoup de lire mon recueil, mais là, on est comme à un moment donné, il faut le faire. Là, oui. C'est quand tu publies un livre, c'est comme impliqué qu'à un moment donné, on va te demander de le lire. Puis c'est Virginie Beauregardet, en fait, qui publie à l'écrou, qui m'a dévoilé le secret. Tu peux réécrire ton livre aussi après qu'il soit sorti. Et que j'ai fait des collages.
Bon.
C'est ça pour comme, pour le... Parce que sinon, ça finit tout le temps, les petits poèmes courts, là. Tu peux pas passer ton temps à...
Oui, oui. Ben, sinon, à aussi, terminer, tu sais. Dans la lecture, avec la rythmique, quand tu lis, tu peux aussi changer certaines choses.
Ouais.
Bon, ben, pensez-vous qu'on a fait le tour?
Je pense que oui.
Sentez-vous qu'on a fait le tour?
Ouais.
Moi, j'ai une question par rapport au choix d'illustration.
Ouais.
Ouais,
ben, ça serait vraiment une longue histoire. En fait, l'illustration, ça vient de mon oncle. Puis, en fait, ça fait 2 ans hein, que c'est paru, ça, puis comme j'ai de la misère maintenant à regarder cette image-là. Moi, j'ai fait mon bac à McGill, puis je m'intéressais beaucoup à la question des cow-boys et des Indiens en poésie contemporaine, puis surtout comment on avait récupéré cette image-là, puis comment on l'exploitait de manière vide et fictionnelle. Donc pour moi, c'est une coquille vide, Cheyenne. Puis quand j'ai commencé sur les nounes en dentelle, c'était mon nom de plume. Ben justement, c'est mon premier nom de plume sur la plateforme numérique. Puis j'exploitais beaucoup ces thèmes-là. Puis comme mon thème principal, c'est la rupture amoureuse, je mettais en scène toujours un cow-boy puis une indienne dans des rôles super manichéens où le cow-boy était le méchant qui venait agresser un territoire, qui venait faire... Dans le fond, c'est ça un peu. Puis... Bref, ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième, c'est que Cheyenne, c'était mon nom de band quand j'y étais au cégep. On a fait une toune sur la guerre sino-japonaise. Puis j'ai choisi ce nom-là, puis c'est resté. C'est comme un nom que j'ai choisi, qui m'a choisi. Je suis allée en Angleterre, puis j'ai comme eu une révélation mystique. J'ai vu mon nom. Puis c'est ça, c'est après ça, mes amis m'appellent Cheyenne, ma famille, puis c'est ça. Mais pour l'illustration, j'ai l'impression que j'envoie comme un mauvais message, dans le sens où comme j'ai l'impression de m'approprier peut-être l'image des Amérindiens, mais c'est pas du tout ça que je veux faire. Puis c'est drôle, dans le fond, parce que ça fait partie de mon histoire. Puis moi, ma famille, dans le fond, était obsédée par les Cowboys puis les Amérindiens. Puis c'est un peu pour ça que j'étais aussi obsédée par ça. Puis ma grand-mère est morte entourée de cartes de hockey, mais d'Amérindiens autour de son lit, que dans le fond, mon oncle, qui est illustrateur, collectionne. Puis dans le fond, ça fait partie aussi de son obsession à lui, tu sais, qui a projeté aussi en disant, ben j'aimerais ça, oncle Alain, que tu me fasses un visuel pour mon zine. Puis lui, dans ses fantasmes, a tout de suite utilisé, premièrement, l'image de la femme super sexualisée, puis deuxièmement, l'amérindienne. Fait que je suis comme mal à l'aise avec ça, puis en même temps, je me dis, ben je peux pas passer à côté de ça parce que ça fait partie de mon histoire, de ma famille et de ma démarche artistique. Fait que, ouais, mais c'est quand même intéressant quand j'y pense, là, ouais, c'est ça, ouais.
Mais y a-t-il juste moi qui trouve qu'elle a l'air d'être attachée sur un poteau puis y a pas de poteau?
Oui.
mais
je trouve que ça résulte bien parce qu'elle est seulement comme dans en le fait, mythe du cowboy puis l'Indien, c'est le cowboy qui est attaché sur un poteau.
En fait, ouais, ben c'est bien que ça soit une femme impuissante. Puis qu'est-ce qui m'intéressait aussi, surtout dans la conquête de l'Ouest, c'est que c'est tout des personnages, autant les Amérindiens que les cowboys, qui ont vécu une histoire sanglante, dégueulasse, puis que de leur vivant, ils ont comme vécu la déchéance de ce mythe-là. Fait que toute l'imagerie qu'on connaît, donc peut-être l'imagerie comme ça, puis tous les westerns nous viennent d'eux. Parce que pour redorer le blason, dans le fond, aux conquérants de l'Ouest, c'est eux qui sont allés faire un cirque ambulant à travers l'Europe et l'Amérique qui s'appelait le Wild West Show, où Sitting Bull signait des autographes, puis Calamity Jane tirait les yeux bandés. Donc, ils se sont sentis comme le devoir de rejouer le rôle. Puis pour moi, c'est comme super attirant parce que ça fait partie aussi de de l'aspect performatif de ma posture, dans le sens où j'écrivais pas en tant que Daphné Baudouin-Pilon, mais bien un personnage, parce que dans mes premiers poèmes, je me mettais en scène dans la peau d'une Amérindienne. Ouais. Voilà.
As-tu lu les lettres de Calamity
Jane? Ouais, donc mon mémoire, mon bac, j'ai fait un genre de mémoire de spécialisation sur le personnage de Calamity Jane. Puis le livre, particulièrement « Lettres à ma fille », en fait, c'est comme un faux document. Si jamais ça vous intéresse de lire ça, c'est magnifique, là, mais c'est des lettres qu'elle aurait envoyées à sa fille qui habitait en Angleterre de son vivant. Donc, quand Calamity Jane est morte, il y a une dame en Angleterre qui a clamé haut et fort qu'elle était, dans le fond, la fille de Calamity Jane et de Wild Bill. Puis, elle a dit, dans ce coffret-là, j'ai des lettres que ma mère m'a envoyées durant toute ma vie, sauf que je n'ai pu qu'avoir accès à ces lettres-là à sa mort. Puis, dans le fond, ces lettres-là ont été analysées par des historiens, puis ça serait des faux documents.
Ah ouais?
Ouais. Mais, puis en plus, Calamity Jane, il y a beaucoup de chances qu'elle soit analphabète, fait qu'il y a eu beaucoup d'autobiographies qui sont parues de son vivant qu'elle a probablement jamais écrites. C'est vraiment intéressant, mais bref, les lettres à ma fille sont magnifiques, pleines de fautes, d'orthographe, de soirées seules à regarder le feu, puis à philosopher avec les loups. Puis c'est vraiment très poétique sans être des poèmes. Puis moi, ça m'avait beaucoup parlé quand j'avais 20-21 ans. Ouais, c'est ça. Oui.
D'accord.
Bon. Ouais, ça suffit.
C'est fini.